Je voulais me mettre au centre, comme ça je pourrais passer le micro à tout le monde sans même avoir à parler moi-même. Alors, donc moi j'ai été choisi ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là hier, je suis Franck Courchamp et je suis écologue. Donc je ne suis pas forcément dans ces domaines des sciences humaines. Et cette question des moyens politiques et économiques, en fait je pense que c'est très bien que je sois ici parce que justement, ce n'est pas moi qui suis... l'expert, et je vais donc me poser en naïf et vous poser ces questions à vous. On va avoir un petit échange et après on aura un échange avec la salle. Donc on a vu des choses qui nous parlaient vraiment, qui nous amenaient à cette question, mais je vais déjà peut-être commencer par donner le micro à Thomas et lui demander s'il peut nous, parce qu'il me semble que c'est toi qui en as parlé tout à l'heure, nous donner juste un bref récapitulatif de ce que c'est que cette mobilisation des jeunes, en deux mots, pour qu'on sache de quoi on parle.
Oui, alors je pense que ça a surtout commencé par Greta Thunberg et ses fameux Vendredis pour le climat. Donc elle a commencé toute seule, je crois, hein, à Stockholm, à faire la grève, donc ne pas aller à l'école. Et c'est juste s'asseoir avec sa petite pancarte « Grève pour le climat ». Et ça a pris en fait de plus en plus d'importance, ça a été un petit peu médiatisé, et je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce genre de mouvement, et ça a grandi d'abord à Stockholm, et ensuite ça a pris des proportions assez importantes dans le monde entier. Et ça a, on va dire, culminé avec son discours aux Nations Unies, voilà, il y a quelques mois maintenant. Oui. Alors ensuite, c'est un mouvement... souvent de jeunes, des gens qui ne votent pas encore, donc peut-être que c'est leur façon à eux de voter, de se montrer dans la rue et de dire que non, ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir politique en place. Voilà.
Merci. Ouais, enfin, je ne sais pas si c'est bon. C'est effectivement quelque chose qui marque pas mal, puisque c'est la jeune génération qui se mobilise là où les autres ont failli. On revient à des discussions qu'on a eues pas mal ces deux derniers jours, notamment avec Gaël, sur quelles sont les générations qui doivent se mobiliser. Bon, évidemment, c'est toutes les générations, mais là, on voit un mouvement de la génération, de la nouvelle génération. Et la question qui a été abordée hier et aujourd'hui sur la carte d'électeur, donc les moyens politiques et la carte de crédit, les moyens économiques, elle est vraiment très, très, elle est très centrale ici parce que ces jeunes n'ont ni la carte d'électeur ni la carte de crédit. Donc je vais peut-être commencer par Mika qui réagit sur peut-être l'aspect économique.
Ouais, je suis carrément pas d'accord parce qu'en fait ils ont non seulement la carte d'électeur et la carte de crédit, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte la chose suivante, et je pense que les différents parents et grands-parents qui sont dans cette salle le voient, c'est vos enfants qui vous influencent au quotidien. Donc c'est-à-dire, en gros, l'idée, si je caricature, la ménagère de 50 ans qui regarde TF1 et qui se dit « Tiens, mais j'ai très envie d'acheter ce dernier Nutella pour mon gamin. » Non, le gamin, il va venir, il va dire « Maman, j'ai pas besoin de Nutella parce qu'il y a l'huile de palme, etc. C'est de la merde, ne m'en achète pas. » Et en vrai, cette dimension-là, si vous voulez, ce retournement-là, c'est une réalité qu'on voyait pas il y a 10 ans. Voilà, moi, je suis né en 88, j'ai grandi dans les années 2000, on va dire ça comme ça. Et l'idée qui était très simple, c'est que ce n'était pas encore nous, même s'il y avait une bascule qui s'opérait, qui disions à nos parents quoi faire. Là, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est parce que les parents sont devenus hyper amoureux de leurs enfants et leur passent tout, ou si c'est parce que les enfants ont raison, mais en tout cas, ils font ce que leurs enfants leur disent. C'est-à-dire que, typiquement, quand j'étais jeune, donc là, je vais revenir encore un peu encore avant, quand j'étais en maternelle, en primaire, je disais à mon père « Mets la ceinture dans la voiture, pourquoi tu la mets pas ? Oh, tu sais, on s'en fout. Non, mais là, s'il te plaît, j'ai pas envie que tu meurs, tout ça. » Bon, j'étais un petit peu flippé comme gamin, maintenant ça va mieux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, aujourd'hui, c'est plus juste sur la voiture ou sur la clope, c'est sur plein de sujets, et avec YouTube, avec Google, avec tout ce que vous voulez, il y a tellement de vulgarisateurs qui rendent les grands chiffres très complexes du travail du GIEC notamment accessibles aux enfants, on va dire, de 8 à 18 ans, qu'ils sont mobilisés, et ils sont même mieux mobilisés via Internet que via leurs profs, qui, en plus de ça, pour beaucoup de profs aujourd'hui, en tout cas en France, sont aussi engagés dans ce travail-là, avec des initiatives comme l'Office for Climate Education. Il y a plein, plein de programmes pédagogiques qui permettent justement de faire passer ces messages-là de manière plus précise. Donc tout ça, ça s'est mis en branle. Et puis surtout, je crois qu'il y a une autre prise de conscience, et j'en ai juste pour 30 secondes, et cette conférence aujourd'hui et hier a été pour moi hyper symptomatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est venu, nous les différents intervenants, les réponses qu'on a eues de certains d'entre vous, ça a été « Ah, c'est anxiogène, ah, mais franchement, vous nous avez déprimés, ah, c'est compliqué. » Mais en vrai, si ce séminaire, il s'appelle « Urgence, urgence climatique », c'est pas pour rien. Si on parle d'urgence, et nous, cette urgence, on la sent. Moi, mon petit frère qui a 19 ans, qui est en train de commencer à faire sa deuxième année de relations internationales, qui est fan d'automobile, qu'est-ce qu'il fait ? Il développe son travail sur l'hydrogène, il développe son travail sur les mobilités douces, sur le dernier kilomètre. Il voit tous collectivement dans notre école à l'Illery, mais aussi c'est vrai pour mon autre école de commerce Neoma où je suis, tous les jeunes sont dans cette démarche où même s'ils ne sont pas écolos et ne se revendiquent pas comme tels, ils ont tous compris que si eux n'arrivaient pas à dire quand ils vont te faire des demandes de stage, des demandes de premier emploi, etc., moi je veux que dans ma fiche de poste, je puisse avoir un impact, bah, juste cette réalité-là, il faut la comprendre, ce n'est pas juste Greta Thunberg.
Ok, donc les enfants sont, ou les jeunes sont plus au courant. Les jeunes, ils ont plus d'informations, ils ont Internet, etc., des programmes un peu plus adaptés. Ils sont plus mobilisés. C'est un moyen... C'est un canal privilégié pour convaincre les parents, convaincre la génération qui actuellement peut agir. Mais est-ce que c'est suffisant ? Michel ?
Je pense qu'il faut garder à l'esprit, j'ai séparé de manière analytique les deux types de devoirs, mais qu'il y a toujours une communication très, très forte entre le niveau individuel et le niveau collectif. Je pense que ce que Greta Thunberg illustre mieux que quiconque, il y a un effet à la fois communicatif et amplificateur des actions individuelles. Donc les actions individuelles prises séparément, mises côte à côte, sont absolument insuffisantes, mais à partir du moment où on prend l'effet d'amplification, l'influence des enfants sur leurs parents, l'influence des enfants entre eux-mêmes, l'influence qu'on peut avoir sur notre famille, par toutes les actions qu'on fait, du moment où on prend cet effet de communication en compte, cela montre qu'on peut construit des actions de plus en plus efficaces. Le cas du véganisme est, à mon avis, extrêmement représentatif de cela. Être végane, manger végane, s'habiller végane, c'est toujours une action à la fois individuelle pour soi-même, mais qui a toujours un côté militant. On ne peut pas séparer, c'est aussi une action politique. Et ce que Greta Thunberg fait, c'est exactement la même chose, de commencer à faire une grève pour le climat devant le Parlement à Stockholm. C'est une action à la fois individuelle et politique, à la fois individuelle et collective. Et donc, à partir du moment où on comprend comment l'individuel et le collectif sont mis bout à bout et communiquent constamment, on réalise que simplement prendre une démarche conséquentialiste qui sépare les actions individuelles, c'est égarant. Et la raison pour laquelle, à mon avis, les jeunes se mobilisent autant aujourd'hui, c'est non seulement parce qu'ils prennent conscience de l'état des connaissances scientifiques, mais aussi tout simplement, ils observent. Il y a un phénomène d'accélération climatique. Les impacts climatiques sont de plus en plus visibles, non seulement dans les pays en développement, mais aussi les pays développés. Les impacts des vagues de chaleur, des ouragans, notamment les vagues de chaleur, on les a tous déjà vécues à répétition. C'est plus long, c'est plus intense. Ces jeunes-là les vivent déjà aujourd'hui et réalisent que, selon les courbes d'émissions actuelles, si nous continuons dans cette direction, ils vont devoir vivre dans un monde extrêmement difficile à s'adapter. Donc, d'une part, ils comprennent mieux, mais d'autre part, ils sont aussi... les premiers à être concernés par cela aujourd'hui et demain.
Et donc ce décalage qu'il y a entre la jeune génération qui se mobilise, qui est plus concernée parce qu'elle va vivre plus intensément ses problèmes, et la génération actuelle aux manettes qui elle a peut-être plus tendance à suivre le consensus parce qu'elle a peut-être plus à perdre de changements drastiques. Est-ce que ce n'est pas le même décalage qu'on voit de manière intergénérationnelle à plus grande échelle, de manière géographique, où 10% des gens captent 10%, enfin, émettent 50%, et comment est-ce qu'on peut changer cette donne, même avec ces deux dissonances dont il a été question, comment est-ce qu'on peut individuellement se convaincre que ça va changer quelque chose si on a ces tels décalages entre ceux qui font, ceux qui peuvent et ceux qui vont subir ?
Alors, ce qu'on voit très clairement dans la littérature en sciences politiques, c'est la perte de confiance. La perte de confiance dans les grandes institutions, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, que ce soit même les entreprises. Et chez les jeunes, ce qui est assez fascinant, chez les très jeunes, hein, donc la génération de mon petit frère plutôt, c'est qu'ils savent très bien qu'il faut prendre le destin en main. Et on le voit parfaitement, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui traînent sur YouTube, c'est-à-dire pas juste qui vont voir une vidéo de temps en temps, mais qui vont de vidéo en vidéo, qui font du binge-watching comme ça. Et si vous le faites, vous allez voir très rapidement la quantité incroyable de vidéos d'auto-vulgarisation par la jeunesse elle-même sur ces sujets-là. Alors il y a de l'auto-vulgarisation scientifique, il y a de l'automobilisation bien sûr, en gros des gamins de 14 ans qui disent à d'autres gamins de 14 ans ou même plus jeunes « mobilise-toi ». Ça, dans les années 2000, on n'a pas connu ça. Dans les années 90, vous n'avez pas connu ça. Bon. Donc, l'Internet permet ça. Mais au-delà de l'Internet qui permet ça, il y a aussi donc, cette perte de confiance dans les médias, il y a une perte de confiance dans les politiques, parce qu'on voit très bien, on sait très bien que d'abord, il faut défendre les différents intérêts particuliers, que ce soit des intérêts de groupe, au collectif, à l'échelle de l'État-nation, ou que ce soit des intérêts particuliers à l'échelle de l'industrie, d'une branche, voire même d'une grande entreprise. Il voit très bien que si aujourd'hui il faut une transition abrupte, ben ce n'est pas ces gens-là qui vont la faire. Donc à partir de là, je ne sais pas si c'est un processus de dissonance cognitive à l'échelle d'une société, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'en termes dans la littérature en sciences politiques, et celui qui l'a très bien montré d'ailleurs, c'est Yann Algan de Sciences Po, cette perte de confiance est en train petit à petit, au fur et à mesure que l'inaction climatique se prolonge, en tout cas l'inaction perçue par la jeunesse, cette confiance est en train d'être de plus en plus délitée alors qu'elle l'était relativement déjà dans la génération des quadra-quinquas. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner qu'un événement, qu'un phénomène comme le phénomène OK Boomer émerge. Ça, des dimensions intergénérationnelles, ça fait 10 ans presque que je fais des conférences sur l'Arctique et je ne l'ai pas dit comme ça, OK Boomer, mais il y a plein de fois où justement j'avais un vieux scientifique, science dure, 70 ans, 80 ans, qui venait et qui m'expliquait qu'on ne pouvait pas changer comme si, on ne peut pas faire, non, ça va trop vite, non, il ne faut pas trop être radical, etc. C'est anxiogène, c'est déprimant, bon, voilà. Et de fait, dans la réponse, ce que je disais, c'était bah, OK Boomer, mais si, on va la faire quand même. Bon. Maintenant, ça, c'est devenu un cri de ralliement en plus. Donc, cette autogénération de phénomènes qui s'alimentent tous les uns les autres et qui amplifient les mouvements pour les rendre non plus juste cognitifs ou sémantiques, mais les rendre physiques avec la mobilisation dans la rue, avec de la mobilisation de consommation et ainsi de suite, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et si il ne se passe pas ça, on n'arrivera pas en 2030 à faire ce qu'on disait à l'instant même.
Ok, donc on a une mobilisation intense, et on a des clés pour les actions individuelles, comme tu l'as montré, mais il reste quand même encore ce petit cran à franchir de donner les moyens économiques et politiques à ces gens qui sont beaucoup plus mobilisés que nous, à avoir des actions concrètes au-delà des actions individuelles. Alors évidemment, c'est pas minime, c'est pas insignifiant, c'est au contraire, ça fait quelque chose. Mais on va dire que ce sont des leviers peut-être économiques. Maintenant, est-ce que les leviers politiques, par exemple, suivent ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a d'autres voies qu'il faut ouvrir ? Alors, je pose des questions, évidemment, aucun de nous n'a la réponse, sinon ça fait bien longtemps qu'elles auraient été mises en place, mais c'est un peu pour stimuler, des réflexions, quitte à ce que ce soit des réflexions connexes sur, l'éthique de tout ça, les voies économiques. Moi, une chose qui m'a vraiment surpris, mais aussi un petit peu déprimé, et ça a été dit hier dans la salle, après ta présentation et encore j'ai eu cette réflexion ce matin, c'est quand on voit la puissance économique qui peut se mettre en place sur des endroits où on n'en a aucun soupçon, on peut se demander comment est-ce qu'on a réussi à imposer une interdiction de l'exploitation de l'Antarctique quand on voit ce qu'il y a dans l'article. Donc, alors peut-être que c'est une question un peu connexe, mais à mon avis c'est quand même lié à ça. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des choix économiques et politiques qui peuvent aller dans le sens dont on a besoin et qui vont à l'encontre du flot du flot apparemment instoppable qui, actuellement économique et politique.
Si vous prenez mon livre dans la deuxième partie sur l'Antarctique, il y a 200 pages précisément là-dessus. Enfin, c'est vraiment l'objectif que j'avais en écrivant la partie sur l'Antarctique. En fait, je vais faire un petit pas de côté. Tout le monde connaît le protocole de Montréal de 1985.
Sur l'ozone ?
Oui, voilà, parfait. Au moins une. Après, je ne suis pas étonné de savoir qui c'est. Le protocole de Montréal de 1985, c'est ce qu'on appelle vulgairement le traité sur la couche d'ozone. Le traité sur la couche d'ozone, pourquoi ça marche ? Parce que fondamentalement, quand les scientifiques sont arrivés à la fin des années 70, début des années 80, ils ont dit, si vous continuez à faire ces CFC, donc les gaz qui provoquent la couche d'ozone, bon, in a nutshell, si vous continuez à faire ça, on va tous mourir. Et on avait des preuves qu'on allait tous mourir. On avait des données scientifiques, des données satellitaires qui montraient sur l'Antarctique l'extension du trou de la couche d'ozone et on voyait à quelle vitesse ça allait. Aujourd'hui, ce protocole de Montréal de 1985, et c'est pour ça que je l'enseigne à mes étudiants, même si, a priori, ce n'est pas leur sujet, les CFC, c'est la seule convention, le seul traité international qui est universel. C'est-à-dire, c'est le seul traité dans l'histoire de l'humanité qui a été signé par tous les pays du monde, les 193. C'est le seul. Vous pouvez en chercher un autre, il n'y en a pas d'autre. Donc, pourquoi ça a été signé ? Pas juste parce qu'il y a eu une science très importante derrière et incontestable, mais parce que les gens, et notamment les électeurs, ont dit à leurs politiques, faites ce qu'il faut, sinon on va crever. Et là, aujourd'hui, je résume. Je sais que tu es d'Odeline, mais je résume parce que véritablement, ce qui a fait peur, c'est véritablement cette idée-là que ça pouvait être irréversible. Là, aujourd'hui, ce qui a amené même l'Arabie Saoudite à signer l'accord de Paris, ce n'est pas des enjeux économiques. Ce qui les a amenés à signer l'accord de Paris, c'était la masse critique d'engagement. Ils ne pouvaient pas être tout seuls à côté. Donc cette masse critique d'engagement à l'échelle des États, elle se construit nation par nation, c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, pour ce qui est de l'Antarctique, par exemple, l'Antarctique a pu être protégée parce qu'il n'y avait pas encore d'exploitation pétrolière à l'époque, même si dans les années 60 et 70, il y a eu des forages d'exploration. Mais, et j'arrêterai là, dans le chapitre Y de ma partie Antarctique, ça fait un rapport au chapitre Y de la partie Arctique du livre. Le chapitre Y de la partie Arctique, c'est Yamal LNG, c'est le titre. Et celui du côté Antarctique, c'est Yacimiento Vega Pléiade. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir l'un et l'autre ? En tant que Français, on peut s'enorgueillir, industriellement parlant, ou on peut s'offusquer, du fait que Total, notre société chez nous, dispose de la première usine LNG la plus septentrionale au monde, Yamal LNG, dans l'Arctique russe, mais aussi du champ gazier le plus méridional du monde, Yacimiento Vega Pléiade, en terre de feu. Et aujourd'hui, plus on voit la péninsule antarctique, je ne vous l'ai pas montré hier ni aujourd'hui, mais plus on voit la péninsule antarctique être libre de glace sur sa partie est l'été comme l'hiver, plus on se dit que peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, on pourrait juste faire le petit saut de puce, 900 km, de la Terre de Feu à la péninsule. Les Argentins ne seraient pas contre, hein, ça leur permettrait de, encore une fois, bien montrer que la souveraineté de l'Antarctique sur cette partie de l'Antarctique est à eux. Hein. Donc ils ne sont pas contre. Mais ça, est-ce que ce sera réalité ou est-ce qu'il y aura eu un engagement avant ? Est-ce qu'on aura pu expliquer aux gens que le GNL, c'est bien, mais ça ne permet pas de maintenir les objectifs de l'accord de Paris, ça c'est évident, mais encore moins d'arriver aux 3 degrés. Ça, est-ce que cette donnée, ce fait-là, est-ce qu'on peut arriver à le faire passer à grande échelle sans faire larmoyer les gens ? C'est véritablement ça pour moi la question. Parce que si on fait larmoyer les gens, ils vont se dire, ah, on est encore en train d'essayer de nous manipuler.
Je voudrais rebondir sur cette notion de masse critique. Donc, tu la mentionnes dans le cas des États, et c'est en effet ça qui a pu mener à la rédaction et finalement à la signature de l'accord de Paris, le fait qu'autant de pays s'engagent à réduire leurs émissions. Ça a même convaincu des pays comme l'Arabie Saoudite de signer l'accord, ce qui n'est pas une petite chose. Aussi, au niveau des mobilisations sociales, le phénomène de masse critique est très important. Donc, si on regarde les mouvements de désobéissance civile, ce qu'il faut pour qu'un pouvoir se mette en place, un pouvoir politique, il faut qu'il y ait une masse critique de personnes qui se mobilisent. Et c'est exactement ce que le mouvement de Fridays for Future est en train d'illustrer aujourd'hui. pour résister aux intérêts économiques que tu mentionnes et que, dont tu as bien parlé avec tous les forages qui se font et déjà qui sont en préparation pour le pétrole, le gaz et ainsi de suite. Ces acteurs économiques ont un pouvoir de lobbying complètement disproportionné actuellement et c'est la raison pour laquelle nous avons fait aussi peu de progrès. Si on regarde l'influence du lobbying sur les négociations climatiques internationales du début des années 1990 à aujourd'hui, c'est un des acteurs qui a eu le plus de pouvoir jusqu'à maintenant. Ce qui manquait jusqu'à une date récente, c'était un contre-pouvoir. Le mouvement de désobéissance civile, le mouvement de Fridays for Future, représente un mouvement de la société civile qui veut faire contre-pouvoir, une sorte de lobbying environnemental. Mais j'hésite à utiliser le terme lobbying, parce que lobbying, c'est souvent un intérêt privé, alors qu'eux, ce qu'ils cherchent à promouvoir, c'est plutôt l'intérêt collectif, l'intérêt de nous, aujourd'hui et demain. Donc, grâce à ce mouvement dont Friday for Future est la première figure, mais qui est poursuivi par beaucoup d'autres mouvements sociaux qui se réunissent derrière cette notion de justice climatique, nous avons enfin la possibilité d'influencer les décideurs dans la bonne direction, alors qu'ils ont été influencés pendant des décennies dans la mauvaise direction. Et à mon avis, c'est pour ça que c'est autant important d'insister sur les deux types de devoirs individuels au niveau de la réduction de son empreinte carbone, mais aussi participer au mouvement collectif, à la fois par le vote, mais aussi par les démonstrations dans la rue, par les manifestations qu'on observe aujourd'hui.
Juste très, très court, ce que la littérature en sciences économiques a montré, c'est que pour qu'une industrie s'autorégule et prenne des régulations, des normes, des standards qui vont contre l'intérêt de toujours plus de profits, il faut une masse critique à l'échelle de cette industrie-là d'environ 20 à 25%. Quand vous avez 20 à 25% des acteurs de cette industrie X ou des bénéficiaires d'une rente Y qui se mobilisent et qui décident de s'autoréguler eux-mêmes, ça fait tache d'huile. Donc, la littérature en sciences politiques n'a pas montré à ce stade que cet effet de seuil, donc des 20-25% de masse critique, se traduisait aussi à l'échelle des États. Donc ça, on ne sait pas encore. Mais toujours est-il qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher là. Si tu as une mobilisation, on va dire, d'un quart des acteurs, d'utilisateurs, par exemple, du pétrole à l'échelle mondiale, ce qui représenterait donc un peu plus de 2 milliards de personnes, peut-être qu'on pourrait donc avoir ici un effet de seuil similaire qui permettrait de faire tache d'huile à plus grande échelle. Donc c'est ces 20 à 25% qu'il faut peut-être aller chercher.
Il y a peut-être un dernier levier qu'on n'a peut-être pas forcément évoqué, et en fait ça doit répondre un peu au fait qu'il y a tellement de vidéos YouTube de vulgarisation, y compris par des gens qui ont 14-15 ans, c'est qu'au final, ce genre de tous les concepts dont on parle ne sont pas enseignés à l'école. Et le fait que maintenant il y a des pays qui commencent à s'engager, je crois que l'Italie sera le premier à avoir en fait les réchauffements climatiques dans leur cursus scolaire dès la rentrée prochaine, je crois, ça montre quand même qu'on avance dans la bonne direction et que si ce genre d'enseignement est vraiment structuré, parce que maintenant ça fait vraiment partie des programmes, on aura une pédagogie qui sera bien plus facile à mettre en place vis-à-vis de ces effets et peut-être des gens qui, une fois sortis de l'école, comprendront tout de suite de quoi on parle et sauront s'orienter tout de suite de manière politique vers les bons choix. Je pense qu'il y a énormément à faire de ce côté-là. Il y a l'appel des élèves de grandes écoles, par exemple, à ne pas aller travailler dans les entreprises qui font du fossile, en général. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut vraiment jouer aussi au niveau, sur l'éducation, mais l'éducation structurée, c'est-à-dire l'éducation nationale en France. Voilà.
J'abonde dans ce sens et j'irai même plus loin. Après, au niveau de l'éducation secondaire, les étudiants qui vont être les politiciens de demain ou qui vont être les forces financières ou industrielles de demain, souvent n'ont pas la formation scientifique sur l'environnement qui leur permettrait de prendre des choix plus éclairés.
Alors justement là-dessus, j'ai la chance d'enseigner à Neoma Business School et à Neoma, mais c'est vrai aussi pour HEC et pour l'ESSEC, on est en train de voir que le choix d'inclure des enseignements scientifiques et les enseignements environnementaux permettent à ces écoles-là de créer des avantages comparatifs qui attirent de nouveaux élèves et qui font que derrière, quand ils diplôment, mais là c'est très récent, on se parle des 3 dernières années, on voit déjà qu'ils ont un salaire plus élevé que ceux qui n'ont pas pris les enseignements scientifiques dans d'autres écoles. Donc typiquement, cette dimension environnementale est en train de devenir même un facteur de business pour les écoles privées, et HEC est en train de l'appliquer sur tous ses campus, même à Berlin ou autre. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, mais qui est à peu près dans la même voie, c'est plutôt une critique, en France, il y a le Conseil supérieur des programmes qui s'intéresse à la question du changement climatique pour l'inclusion, sauf qu'on ne peut pas on ne peut pas, sur la question du changement climatique, consulter des mecs qui sont des climato-sceptiques notoires pour faire les programmes. Parce que si on fait ça, ce qu'on revient à dire, tout simplement, c'est que le changement climatique, ça peut s'étudier à charge et à décharge. Or, non, ça ne s'étudie pas à charge et à décharge. Il y a des faits, point.
Et juste...
Je pense qu'il faut toujours les deux composantes, scientifiques et éthiques, notamment avec l'idée de citoyenneté écologique. Si on veut que les citoyens de demain deviennent des citoyens écologiques, c'est-à-dire dans l'empreinte environnementale générale et particulièrement l'empreinte carbone soit durable, autour des 2-3 tonnes de CO2, il faut dès le plus jeune âge leur enseigner des programmes pour avoir un mode de vie durable. Et c'est très difficile dans nos sociétés libérales, parce qu'on passe plutôt sur le versant républicain en disant c'est pour le bien commun qu'il faut faire ça. Mais des auteurs comme Andrew Dobson ont théorisé cela depuis de longues années, avec l'idée que la théorie politique verte arrive à un modèle de citoyen écologique, et pour atteindre cet idéal type du citoyen écologique qui réduit son empreinte carbone de manière drastique, il faut intégrer très tôt dans le programme d'enseignement des enseignements sur l'état des connaissances scientifiques et aussi sur les devoirs écologiques qui en découlent. Et là, ce type de séminaire le montre bien. Quand on est interdisciplinaire, on va toujours de l'empirique au normatif et du normatif à l'empirique. Les deux se nourrissent mutuellement.
Donc là, on commence à avoir des échanges avec la salle. Alors, c'est très bien. Si on pouvait avoir des commentaires, des...
Non, tu veux dire ? J'avais déjà juste une remarque. Est-ce qu'on pourrait pas aussi débuter avec les jeunes? On voit la masse d'informations sur Internet. Avoir aussi une éducation à la critique, à la confrontation des sources dès le plus jeune âge. Parce que quand on voit, par exemple, les médias, on évoquait aussi, comme on a vu hier, on disait le Groenland se fend ou le Groenland fond, où on entend voilà, la montée des eaux est liée à la fonte de la banquise. Il faudrait aussi leur apprendre aussi voilà, les termes scientifiques dès le plus jeune âge et qu'ils aient
l'esprit critique
aussi de savoir quel type de source. On voit les fake news, on voit tout est sur Internet. Donc je pense aussi, dès le plus jeune âge, commencer déjà par une éducation à la critique qui leur permettrait par la suite d'avoir cette éducation au développement durable. Je ne sais pas ce que vous en pensez avant de passer aux questions.
Alors, moi, je voudrais faire part de ce que des lycéens m'ont dit. Donc, je suis intervenue à de nombreuses reprises dans des classes, à la demande parfois des proviseurs qui essayaient de canaliser un peu l'impatience de la jeunesse. Très inquiet des mouvements qui font sécher l'école. Moi-même, étant mère de famille, ce n'est pas non plus le truc que j'adore, hein, qu'on choisisse de sécher l'école. Et donc, il y a eu pas mal d'échanges. Et ce que les lycéens m'ont dit, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que ce n'est pas à nous de le faire, c'est à vous. Donc, le message qui consiste à dire on va éduquer les jeunes et puis ils vont faire le sale boulot après et nous, on peut attendre. C'est quelque chose qui est incompréhensible pour eux. Donc il y a des enjeux à former les journalistes par rapport au traitement de ces informations-là. Il y a des enjeux à utiliser les médias publics, de l'audiovisuel public, au service de ces questions-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, pas du tout à la hauteur. Il y a des enjeux de former les élus, de former les cadres dirigeants, en fait, partout. Ce n'est pas simplement une question d'éducation des plus jeunes. C'est une question aussi que ces connaissances-là elles soient transmises, cette réflexion éthique, le principe de responsabilité, soient transmises aux gens qui, aujourd'hui, ont des leviers d'action. Après, quand vous formez les jeunes, ça peut se retourner contre vous. Qui ici a lu le contentieux qui est porté devant la Convention internationale des droits de l'enfant par Greta Thunberg et 16 autres jeunes, ou 15? Qui l'a lu? Il faut le lire, hein. Il faut vraiment le lire. C'est en anglais, mais il faut le lire. Ça s'inscrit dans les travaux scientifiques les plus récents. Telle vague de chaleur à tel endroit a été rendue plus intense, et cette gosse-là, elle a eu des crises d'asthme, elle n'a pas pu passer son examen final. Ou tel autre, le lieu où il vit, dans tel endroit, a été dévasté par tel phénomène de submersion, inscrit dans un contexte d'études scientifiques, et tel pays, le mien par exemple, a une politique ambitieuse, mais n'agit pas à hauteur en s'inspirant du rapport du Haut Conseil pour le climat. Donc des choses vraiment solides. Et en fait, ces jeunes-là, ils portent devant la justice, la Convention des droits de l'enfant, quelque chose qui est fortement inscrit dans le contexte du droit et de leurs droits. Et donc quand on arme les jeunes... On va en fait de plus en plus avoir ce type de recours par rapport à leurs propres droits. Donc c'est quelque chose à réfléchir, je pense. Quand on dit c'est à la jeunesse de porter les transformations, qu'est-ce que ça va être le retour de la jeunesse vers la société et vers ceux qui sont aux commandes aujourd'hui? Ça pose beaucoup de questions. Et enfin, ce que disent les plus jeunes, c'est qu'ils disent « Ok, on nous sensibilise, mais mal. On veut des clés pour comprendre, On veut des clés pour apprendre à porter les transformations. Est-ce qu'il existe un comparatif des programmes scolaires internationaux ? Est-ce qu'il existe un comparatif des compétences quand on sort les jeunes du système secondaire, quand on sort les jeunes du supérieur, des écoles d'ingénieurs, de commerce, des universités ? On compare plein de choses, on compare les salaires, on compare l'alphabétisation, on compare les compétences sur d'autres sujets. On ne compare pas les compétences sur l'environnement. Je pense que notre communauté, le monde académique, on est aussi des enseignants tous, en fait, quelque part, on n'a pas été à la hauteur de l'enjeu en disant « mais on doit comparer, mesurer ces compétences, parce que si on ne les donne pas, on aura en fait des gens qui sortent avec des idées reçues fausses et qui vont choisir des fausses solutions, parce qu'ils n'auront pas les outils pour comprendre toutes les dimensions de ces enjeux-là. » Donc c'est en fait un peu de provocation, mais pour vous faire réagir sur ces dimensions-là.
On va passer aux questions dans la salle.
Oui, donc moi je ne fais pas partie de la jeune génération, je fais plutôt partie de l'arrière-garde, mais je reste mobilisé donc, dans tout ce qui est développement durable. Voilà, je vais être très bref et je voudrais aborder un point qui a un fort impact également sur le réchauffement climatique. C'est la climatisation. Qui dit climatisation dit électricité. Qui dit électricité dit centrale nucléaire. On affirme, entre autres, hein, je parlerai après de l'énergie verte, on affirme que les centrales nucléaires...
Si vous pouviez poser une question relativement rapide pour que tout le monde puisse poser des questions.
Non, mais il faut bien que je place dans le contexte pour qu'on comprenne...
Non, je pense que ce n'est pas la peine de faire un exposé sur la climatisation. Si, quelque chose de relativement rapide pour qu'on puisse avoir plus qu'une question.
Bien, alors la climatisation, elle est définie par ce qu'on appelle le coefficient SER, qui est voisin de 6. Et les centrales nucléaires ayant un rendement de 33%, donc je m'excuse, mais je vais devoir être un peu technique et scientifique.
Non, mais on est au courant. Hein. On est au courant, je pense qu'on peut le dire.
Un kilowatt.
Question là-dessus. Hein.
Oui. Comment ?
On est au courant. Il n'y a pas de problème, la climatisation, on voit bien de quoi il s'agit, quel est le problème, on peut réagir dessus.
Voilà.
On ne va pas passer 30
bon, alors, je vais prendre... Alors, simplement, je vais aller au résultat final. Si je prends le cas d'un réacteur nucléaire de 1,3 gigawatt... En supposant que ce réacteur ne fonctionne qu'à 1 gigawatt parce que l'air extérieur est trop chaud pour qu'il puisse fonctionner à la puissance maximale, si ce 30% de la production de ce réacteur est consommé en climatisation, ce réacteur seul, avec tous les climatiseurs qui sont couplés, dégagera 2400 millions de kilowatts de puissance calorifique. C'est une... Bien entendu, une quantité, une puissance énorme qui ne fait que rajouter de la chaleur à la chaleur. C'était ma seule intervention et je crois qu'elle va bien au-delà de certains impacts qui ont été cités.
So what is the question?
Alors, la question est la suivante. Au niveau de la formation, je crois qu'il faudra qu'on aborde ce problème de climatisation parce que des solutions simples peuvent être apportées à partir du moment où la construction est faite selon des concepts qui permettent justement d'éviter les entrées de chaleur.
Je pense que la climatisation, vous l'examinez d'un point de vue européano-centré, c'est-à-dire que la climatisation dans un pays où il fait 100% d'humidité et 35 degrés à l'ombre est complètement et totalement aussi justifiée d'un point de vue existentiel, physiologique que nous, le chauffage. Donc, crier contre la climatisation est à peu près, à mon sens, aussi pertinente que de crier contre le chauffage. Il faut avoir une certaine sobriété, qu'elle soit dans le chauffage ou dans la climatisation, et il n'y a pas à diaboliser l'un par rapport à l'autre. Alors après, effectivement, aux États-Unis, savoir que le chauffage est réglé à 18 parce que la raison est qu'il faut qu'un homme puisse rester en costard, cravate, à l'intérieur d'un bâtiment... Et tout, où une femme va avoir froid est tout à fait discutable et ce seuil pourrait être remonté, j'en conviens. Mais de fustiger la climatisation est à mon sens caricatural.
Bon, j'ai une vraie question. Est-ce que vous allez pouvoir y répondre ? J'aimerais pas être dans la peau d'un jeune de 16 ans. Un cousin de Greta, par exemple, dont le père est amoureux des 4x4. Voilà. Et donc, qui a une marque X, hein, anglaise peut-être, hein, beau, rutilant, avec des chevaux, peut-être pas un diesel, hein, peut-être un thermique, mais un, enfin, un thermique à essence. Hein. Est-ce, quel est le poids de ce jeune ? Le Nutella, c'est du gâteau. Hein. Enfin, c'est de la pâte au chocolat. Mais c'est facile à la limite parce que voilà, le pot de Nutella sur la table, le père, s'il en mange, c'est son problème. Hein. Le fils, s'il a bien compris la leçon, il va dire « Papa, c'est pas possible ». En imaginant que ça marche pour ça a marché pour les cigarettes. Ça marche pour les manger 5 fruits par jour. Ça marche pour l'alcool, pas plus de... Hein. Est-ce que demain, on peut imaginer que les lobbies automobiles... Vous savez, toutes les pubs le matin, il y en a 8 sur 10 pour toutes les marques, japonaises, anglaises, allemandes, beaucoup, des belles voitures. On a ce petit bandeau en bas. Acheter un SUV va entraîner une augmentation voilà, du réchauffement climatique de tant de pourcents dans tant d'années. Merci de la réponse.
J'ai juste deux mots à propos de ça. Quand j'en parle souvent et quand on me dit « Oui, mais bon, j'ai un SUV, mais ça consomme autant qu'une petite diesel citadine d'il y a 10 ans », je pense qu'il y a beaucoup de ça qui est lié à cet effet rebond, justement, qu'aujourd'hui, on a peut-être des moteurs plus efficaces et qui nous autorisent, mais ce n'est pas une vraie autorisation. Alors ça, c'est une autre question, c'est vrai. Et je pense que beaucoup de gens essaient de justifier ça, y compris pour les tanks électriques qu'on voit aujourd'hui. Elon Musk a encore montré son pick-up électrique hier. Beaucoup de personnes vont sûrement acheter ça en se disant « Bon, bah, ça va remplacer ma vieille Passat diesel ». Non, enfin, ça ne va pas la remplacer, ça va peut-être même faire augmenter les émissions parce qu'on perçoit ces nouveaux véhicules comme des véhicules plus efficaces, plus propres, etc. C'est l'exemple parfait de l'effet rebond qu'il faut combattre et je ne sais pas comment parce qu'il y a même des constructeurs qui sont en train de fermer leur ligne de production de petites voitures citadines justement à cause de ça et qu'on est en train d'aller vers... Donc il y a évidemment une part de la publicité. Il me semble que quand on achète une voiture, c'est à peu près 15% du prix qu'on dépense en fait en marketing qui finira en pub et... Il y a énormément d'efforts à faire au niveau de la publicité des véhicules, c'est sûr. Ouais.
Sur cet effet rebond, justement, je pense que ce qui est important de garder à l'esprit, c'est en raison de cet effet rebond, les progrès technologiques et les innovations technologiques que nous faisons ne vont aboutir qu'à des réductions de gaz à effet de serre très limitées. Et c'est pour ça qu'il est très important d'insister sur les deux autres dimensions où nous pouvons vraiment agir, réduire notre consommation. Et également réduire la croissance démographique. Donc il y a une équation assez connue qu'il faut bien sûr énormément complexifier, mais qui schématise bien comment nous pouvons réduire notre impact environnemental. C'est l'équation IPAT, I, donc impact environnemental égale population fois affluence fois technology. Ce qu'on peut faire sur les technologies, c'est assez limité. Si on parie sur la géo-ingénierie ou l'ingénierie climatique, par exemple, beaucoup font ça dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais cela nous éloigne, à mon avis, de l'essentiel. Et c'est là où les questions éthiques et de justice se posent, réduire nos niveaux de consommation et réduire la croissance démographique. Toutes les actions à haut impact sont dans ces catégories. Et c'est pour ça que l'éducation civique est aussi importante. Elle insiste sur nos valeurs. Et indépendamment de l'impact qu'on peut avoir, parce qu'on réfléchit toujours en termes conséquentialistes, quel est l'impact d'une action individuelle, elle est souvent infinitésimale sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales. L'important, c'est aussi d'insister sur des valeurs. La sobriété énergétique est centrale, devrait être centrale dans tout programme d'éducation. La tempérance également. L'intégrité. Et c'est là où on voit la connexion entre le niveau individuel et collectif. Si on défile dans la rue pour demander au niveau collectif des mesures de réduction d'émissions, nationales et internationales, si on veut faire preuve d'intégrité, nous devons faire de même. Sinon, nous n'avons pas d'intégrité et nous n'aurons aucune conséquence. Donc, toutes ces valeurs, intégrité, sobriété, tempérance, à mon avis, sont des valeurs qu'il faut intégrer et qui pourraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre en montrant qu'il ne faut pas parier sur une solution technologique uniquement.
À Paris, on a fait la vignette critère pour renchérir le coût en termes de operating expenses, donc de coût durant la durée de la vie de la voiture. On a fait le malus écologique et on rend Paris de moins en moins friendly pour la voiture en général. Il n'empêche que l'année dernière, 50% des voitures vendues à Paris étaient des SUV. Donc, si le malus, ça ne marche pas, si la vignette, ça ne marche pas, si le changement de la ville, ça ne marche pas, qu'est-ce qui marche ? La pub ! Voilà, merci. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu me parlais, Michel, tu parlais d'un 2003. Tu disais un cousin de Greta, qui a donc 16 ans, donc c'est ce qu'on appelle communément chez nous un 2003. Donc, un anthropologue. Oui, oui, tout à fait. Post-millénium, donc voilà, donc un 2003. Si on se place sur la timeline de 2030, il faut qu'en 2030, il y ait un certain nombre d'actions pour qu'on évite de finir sur les 3 degrés et plus. Eh bien, tout simplement, ton gamin qui a 16 ans, il va commencer ses études en 2021, il va avoir 18 ans, il va pouvoir voter en 2022 et en 2027, donc il va voter 2 fois, et il va avoir 5 ans d'études, il va commencer à travailler a priori en 2026, donc il aura 4 ans d'activité professionnelle pour essayer de faire le changement. Aujourd'hui, la réalité en 2003, c'est ça. Donc, 4 ans d'activité professionnelle, d'une part, c'est loin, ça perpète les oies, c'est plus que... Hein, c'est très très loin. Mais au-delà du fait que c'est très très loin dans leur vie, c'est pas en 2026 qu'il va falloir commencer à agir. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas psychologue ni sociologue, je ne sais pas pourquoi la jeunesse a bien compris cette question bien mieux que les boomers et les post-boomers, mais cette dimension de « on n'a pas le temps d'attendre », je ne la retrouve pas chez les gens de ta génération et de la vôtre qui sont quadra ou quinca. Je ne la retrouve pas. Et comment on peut faire pour la développer ? Ben oui, mais sauf chez des gens qui sont très activistes ou qui sont très connaisseurs. Parce que je vois Valérie qui est comme ça, ben oui, je sais bien. Comment on fait pour vous ?
Il y a une question dans la salle. Il y a 2 questions. Et il y a un autre micro là, si on peut balader 2 micros en même temps.
Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la dissonance dans laquelle je me retrouve très bien entre le fait d'être informé et le fait de passer à l'action et de faire des choses. Et alors là, j'ai une petite question pour vous tous. C'est l'information, vous l'avez depuis très longtemps, hein. Et donc, individuellement ou dans les gens de votre communauté, qu'est-ce qui a été facile à mettre en place comme solution et qui vous a même apporté, je dirais, un certain bonheur ? Qu'est-ce qui a été difficile à mettre en place, mais vous vous êtes dit, je veux le faire parce que j'y crois, et donc j'arrête de faire telle ou telle chose, ou je fais des choses. Et qu'est-ce qui est encore difficile pour vous à mettre en place et votre objectif.
Alors, solution concrète. Pendant que Gaël a la réponse, je voudrais juste dire un petit mot là-dessus. Effectivement, moi, je me retrouve pleinement là-dedans. Ça fait des années que j'enseigne que ça va mal et qu'il faut faire attention. Et en fait, pour faire le lien avec la conversation précédente, c'est ma fille qui, à 12 ans, est devenue végétarienne et qui m'a dit « tu ne peux plus continuer à raconter ce que tu racontes et manger de la viande ». Et donc, c'est elle qui m'a fait changer. Donc là, on a vraiment le lien entre les deux conversations, la nouvelle génération qui convainc l'ancienne et cette dissonance cognitive. Gaël ?
Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, mais j'ai une certaine observation. Dans le laboratoire dans lequel je travaille, il y a une vieille photo qui a été prise en 1972 et où on voit devant le laboratoire où il y avait à peu près 3 fois moins de personnel, quelque chose comme 50 voitures garées sur le parking. Aujourd'hui, si vous faites la même photo, vous en verrez 5. Donc je pense que dans cette communauté qui est au courant depuis fort longtemps, les trajectoires évidentes que je vois dans la pratique sont la limitation des transports en voiture professionnels, l'utilisation massive du vélo et des transports en commun. Bon, il s'avère qu'entre-temps, les transports en commun se sont développés à Grenoble. Une tendance aussi au régime végétarien. Très nettement, à l'intérieur du laboratoire, il y a de plus en plus de gens qui mangent de moins en moins de la viande. Typiquement, aujourd'hui, quand le laboratoire fait un buffet, symboliquement, on a supprimé la viande du laboratoire. Par contre, probablement, ce qui est le plus difficile et qui aurait un fort impact, c'est la limitation du transport aérien de chacun des chercheurs du laboratoire. Et j'ai le sentiment que c'est une trajectoire qui va s'accélérer dans les 10 prochaines années.
Je veux juste réagir, étant donné que vous avez mentionné la notion de bonheur, un philosophe ne peut pas ne pas réagir là-dessus, et je pense que c'est vraiment important d'insister sur l'idée que réduire son empreinte carbone n'est pas forcément un sacrifice. Donc Valérie Vasson-Delmotte, vous l'avez dit, la réaction de certains jeunes, c'est de dire « mais pourquoi c'est à nous de faire des sacrifices alors que vous ne l'avez pas fait ?» Je pense qu'un message qu'il faut faire passer, c'est que vivre avec de la sobriété énergétique ou de la sobriété de manière générale, ce n'est pas forcément vivre malheureux et ce n'est pas que des sacrifices. Il y a toute une très très longue école philosophique qui s'appelle l'eudémonisme, qui montre que vivre vertueusement, c'est la manière de vivre le plus heureux possible. Il faut réactualiser cette éthique des vertus pour montrer que quand on vit de manière intègre, quand on vit de manière sobre, quand on vit avec ce genre de vertus, c'est pas qu'un sacrifice. Je peux l'illustrer au niveau de mon expérience personnelle. Je suis vegan, je serais assez mal placé pour faire ma présentation si je ne l'étais pas. Et la transition était longue et certes difficile au début parce que je partais de loin. Mais ça, je vis absolument pas cela comme un sacrifice. Déjà de devenir végétarien puis vegan, ça n'a pas du tout été un sacrifice. Au contraire, pour moi, je me sens beaucoup mieux avec moi-même aujourd'hui d'être vegan. Je ne veux plus être complice des effets que la consommation de viande a. Pour moi, c'est pas qu'une question d'intégrité, ça m'a aussi apporté du plaisir et du bonheur. Donc je pense que c'est aussi important d'insister sur ce côté plus eudémoniste de la transition énergétique et la transition écologique en général.
Ah oui, moi je voulais juste dire que ça fait 20 ans que j'utilise les outils qui permettent de faire un bilan carbone personnel. Ça permet de voir en tout cas ce qui pèse le plus. On est 4 dans ma famille. Et après, c'est se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'agir. Puis, j'ai une formation au départ d'ingénieur, ça aide un peu. Et donc du coup, c'était rigolo parce que en fait, c'est un peu des défis. Et donc on se dit, ben voilà, on va essayer d'adresser ça. Puis on n'a pas les ressources pour investir. Puis après, on investit. Puis on voit que ça baisse. Il y a des choses qui sont plus dures que d'autres. Et pour moi, les deux choses qui ont amélioré mon bien-être, parce que c'est ça en fait que je vois, c'est pas un sacrifice, c'est pas un effort, c'est pas du tout ça. C'est penser autrement et être fier de ce qu'on a fait. Et les deux choses qui ont amélioré mon bien-être, c'est arrêter de prendre la voiture pour aller travailler, être coincé dans les bouchons, à arriver en râlant et en devant prendre 3 cafés, et aller en vélo électrique. C'est ma bulle en fait de relaxation entre le domicile et le travail, c'est complètement autre chose. C'est vraiment du bien-être. Et donc pour moi, les bénéfices, ils sont 1000 fois supérieurs à ce que ça peut être vu de faire un effort physique pour aller travailler. Et la deuxième chose, c'est manger mieux. Donc moi, je suis devenue végétarienne. Mais c'est vraiment manger mieux. C'est penser autrement le rapport à où on va acheter ce qu'on mange et créer un autre lien avec les gens qui produisent ce qu'on achète. Et de la même manière, en fait, c'est vraiment pas un effort. C'est vraiment être fier des efforts accomplis. Et après, dans mon cadre professionnel, c'est réfléchir à ce qu'on peut faire pour avoir une action de compensation qui a un sens, qui permette des transformations dans d'autres secteurs pour agir par rapport à des émissions contraintes de déplacement professionnel. Et ce que disent les chercheurs en sciences sociales, c'est que sur ces actions-là, à l'échelle individuelle, ça peut être épuisant. On a des jeunes qu'on forme très bien, qui sont responsables de développement durable d'entreprise. S'il n'y a rien qui bouge autour d'eux, ils sont épuisés, ils tombent en dépression au bout de quelques années. Ce qui marche, c'est qu'en fait, il y a un signal qui vient d'en haut, il y a une communauté qui bouge, qui apprend de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, la fierté d'avoir fait des choses, on ne mesure pas à quel point c'est un levier d'action formidable. Et ces jeunes qui se sont levés, qui ont été soit sécher les cours, soit faire des choses, soit organiser des événements, en fait, on n'imagine pas la fierté qu'ils ont eue à faire des choses ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très puissant, en fait, en termes de transformation de société. Surtout quand on est enfant, et donc on est assez passif, finalement, on n'a pas les leviers d'action. Faire autrement et faire ensemble, je pense que c'est quelque chose qui va être très marquant pour eux dans le reste de leur vie.
Moi, j'aimerais... Je prends la parole maintenant. Moi, j'aimerais parler pas seulement des jeunes et des enfants, mais j'aimerais également parler des peuples dans le monde qui perçoivent notre façon de vivre comme progrès et comme luxe. Et comment les convaincre à renoncer à quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Nous, on a bien vécu dans le luxe et on a exagéré. Et maintenant, on commence à utiliser des gourdes. En Afrique, la bouteille en plastique, c'est le progrès, c'est un luxe. Et comment les convaincre?
Je crois que c'est pour toi.
Oui, c'est un défi de taille, lutter contre le changement climatique tout en luttant contre la pauvreté mondiale et lutter contre la pauvreté mondiale tout en luttant contre le changement climatique. Le terme clé ici, c'est l'énergie. Et une très forte dimension de pauvreté, c'est la pauvreté énergétique. Et beaucoup de peuples en développement n'ont aucun accès à l'énergie ou un accès très précaire à l'énergie. Et nous ne sommes absolument pas en mesure de les interdire d'accéder à des sources d'énergie fossiles pour leur propre développement. C'est pour ça qu'il est autant important d'insister non seulement sur le fait que nous devons réduire nos émissions, mais également aider les pays en développement à réduire les leurs. Donc ce dont ils ont besoin, ce n'est pas des émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment de l'énergie. Et si nous pouvons promouvoir les énergies renouvelables à la fois chez nous et chez eux, comme c'est notre devoir de le faire, étant donné notre responsabilité historique et présente et notre capacité à la fois technologique et financière, nous pouvons relever en grande partie ce double défi de lutter contre le changement climatique tout en luttant contre la pauvreté.
Oui, et pour rebondir là-dessus, regardez bien ce que font l'Islande et le Japon. La logique de l'Islande et du Japon, c'est d'essayer de bâtir des sociétés hydrogènes autour de ça, en disant, oui, alors c'est un peu ma marotte, pardonnez-moi, hein, je ne suis pas sponsorisé par Air Liquide, hein. Ça va venir peut-être, je ne sais pas. Mais plus sérieusement, deux secondes, ce qui est assez fascinant chez les Japonais, c'est qu'ils veulent continuer la fast fashion, avec des Uniqlo que vous connaissez tous très bien, et faire de la livraison à outrance avec Rakuten, hein, qui est exactement la même chose qu'Amazon. Ils veulent continuer à faire ça, mais en le décarbonant. Donc eux, ils ont leur solution hydrogène. Bon, pourquoi pas. Et les Islandais sont toujours avec l'hydrogène dans une autre démarche qui consiste à dire une démarche de sobriété. C'est pas on va essayer de décarboner en consommant tout pareil, c'est on va décarboner en déconsommant, entre guillemets, mais sans faire de la récession non plus. Hein. C'est pas de la décroissance non plus. Hein. Et l'idée, c'est que les Islandais apportent ce modèle-là avec leur technologie hydrogène, leur technologie pardon, géothermique couplée à de l'hydrogène dans des territoires qui, justement, cherchent à sortir de la pauvreté. Et ces territoires-là, ça va être les terres intérieures de Chine, où il y a beaucoup de projets sur des bases de technologies islandaises couplées donc géothermie hydrogène. Vous avez la Papouasie-Nouvelle-Guinée dont on a parlé, l'Indonésie, ce qui d'ailleurs est en train d'inciter l'Indonésie, soit dit en passant, à préparer une candidature au Conseil de l'Arctique parce que les Islandais leur ont dit « ça vaut le coup », mais aussi ils sont allés en Éthiopie. Et les Islandais, aujourd'hui, tout le système de développement géothermique de l'Éthiopie est organisé par les Islandais. Ils sont allés dans la Caraïbe. Alors, on a essayé de les ramener chez nous, ils sont allés en Dominique, ils essayent de voir d'autres territoires. Donc, petit à petit, ils essaiment cette approche à la fois de on n'est pas des décroissants, mais on est des consommateurs sobres, avec cette technologie géothermie et hydrogène qu'ils apportent.
Vous avez une question ?
Oui, sans aller aussi loin, il y a des mairies comme celle de la ville de Montreux qui font beaucoup d'expérimentation au niveau, donc un petit niveau, mais quand même collectif, et qui sont très intéressants. Par exemple, développer des parkings gratuits à proximité des gares, créer une académie digitale, donc éviter aux étudiants de se déplacer tout en ayant accès à beaucoup de cursus de haut niveau, créer un poulailler communal pour les déchets. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui peuvent être faites au niveau des villes, et c'est peut-être les maires qui devraient suivre des formations intensives.
Tout à fait, et même ce qui pourrait être pas mal, c'est d'avoir une espèce de guide de la commune, où chaque expérience positive d'une commune pourrait être reprise par les autres. Je ne sais pas si ce genre de choses existe, mais c'est typiquement une initiative qui pourrait essaimer très très rapidement chaque succès où qu'il soit. Donc, je ne sais pas s'il y a des courroies de transmission pour ce genre de choses, mais peut-être avec le Luxembourg, peut-être que le Luxembourg pourrait essayer de reprendre ses initiatives un peu partout dans ses communes et à l'extérieur. Et puis après, ouais, éditer ce petit guide. Je ne sais pas s'il y a des...
J'ai une remarque rapide à la fois sur cette question et sur celle d'avant. Il faut que ce genre de pratique devienne cool. Bon, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, sexy, il faut que ça devienne quelque chose qui fasse partie de notre identité, à la fois pour les communautés locales, il faut que ça devienne super, que ça donne une bonne image, et aussi pour des pays comme l'Afrique, comme je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, le cool, enfin, si je peux me permettre une anecdote, j'avais un collègue Thésard, en fait, qui étudiait les fours solaires, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ça ressemble à des grands miroirs paraboliques, et qui peuvent chauffer la nourriture, ça marche très bien, techniquement, le problème, ce n'était pas technique, c'était l'acceptance, parce qu'en Afrique, tout le monde veut des cuisinières électriques. Si maintenant, le cool, je ne sais pas comment l'appeler ça, mais il faut que ça devienne une question d'image et d'identité, d'avoir ce genre de pratique, il faut que ça devienne, je pense que les médias sociaux, par exemple, ils sont pour beaucoup, il faut que ça devienne super d'avoir des choses bas carbone chez soi, etc. Il faut que les communes communiquent quand elles font des bonnes pratiques. Et je pense qu'un guide,
ça commence un peu avec les influenceurs hein, sur YouTube oui. ou d'autres chaînes, Instagram, qui lancent un peu un mouvement qui fait que effectivement l'image sociale change. Et le ringard change de camp.
Voilà, c'est ça.
Sur l'image sociale, juste très, très rapidement, sur les deux dernières années, j'ai travaillé à bâtir une stratégie de transition énergétique et d'autonomisation énergétique pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'échelle de l'ensemble de l'archipel. Et l'idée, c'était de développer un système entièrement renouvelable à partir du moment où, aujourd'hui, ils sont à 100% diesel. Et le problème, c'est que ceux qui étaient intéressés par le modèle qu'on a bâti, 100% renouvelable, avec pareil, éolien, donc il y a été rare, je sais, mais là on n'a pas eu trop le choix, avec couplé système hydrogène. Ça a intéressé la Direction Générale Énergie Climat, donc le ministère de l'écologie français. Ça a intéressé les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais ceux qui ont dit « Ah non, il ne faut surtout pas le faire », etc., c'est EDF. Parce que EDF a dit, mais alors nous, ça nous emmerde vachement, parce qu'en fait, on a fait une nouvelle centrale diesel en 2013, qui est rentrée en circuit, en activation en 2015. Ça nous a coûté 70 millions d'euros, ce qui, pour un territoire de 6 000 habitants, est quand même pas négligeable. Et du coup, ben, il est hors de question qu'on s'asseye sur cet investissement-là qu'on a fait dans un moment où on n'avait pas autant de conscience écologique que maintenant. Donc typiquement, il y a des forces comme ça sur lesquelles... Oui, je sais bien. Mais en 2013, on ne pouvait pas encore bâtir des systèmes pilotables d'énergie renouvelable intermittente à base d'hydrogène. On ne savait pas encore bien faire. Là, depuis 2017, 2018, 2019, les choses ont changé. Donc c'est pour ça. Mais en réalité, le problème qu'on a, c'est que là, encore une fois, sur EDF, l'État, des politiques, des hauts fonctionnaires pourraient agir et dire à EDF, bon, bah, écoutez, c'est quand même nous les administrateurs de chez vous, donc on vous dit quoi faire et pas l'inverse. Or, c'est l'inverse. Pourquoi c'est l'inverse ? Ben, en fait, poser cette question reviendrait à poser une question aussi provocatrice que celle de Valérie tout à l'heure. C'est pourquoi toujours la haute administration ou le politique se couche devant un capitaine d'industrie ? Je ne sais pas.
La dernière question avant de passer au discours de clôture par alors, Madame Masson-Delmotte, puisque Monsieur Hoffmann s'excuse, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, et Michel Bourbon, donc un discours de clôture à deux voix. Et donc, je laisse la parole à Bruno Terret. Donc, il y a déjà le micro.
D'accord. Merci beaucoup à l'Institut français d'avoir initié ce genre de débat extrêmement actuel et porteur d'avenir pour tous. Plusieurs questions, c'est vrai en termes d'éthique, c'est important. On parlait de la croissance, ça permettait le gaspillage, permettait la croissance, la consommation, c'est notre système économique, il fallait consommer plus. Donc c'est les mentalités, donc l'éducation est primordiale, on doit commencer par là. Une question de temps maintenant, et je pense aux économies de transition. Moi, je suis dans l'industrie lourde, je vois, on passe aujourd'hui à l'hydrogène, donc c'est important. L'hydrogène, c'est un problème de vecteur aujourd'hui avec le nucléaire et autres, c'est une question de temps. C'est de la batterie, c'est du stockage et autres, c'est pas la panacée en France, il y a un coût également qui est lié à ça, donc il faut y aller. Maintenant, quel est l'avenir du nucléaire par rapport à tout ça ? Je vois Luxembourg, on ne prend pas dans les statistiques que vous avez montrées, c'est déjà très très mauvais pour Luxembourg, le phénomène de la mondialisation, donc des importations, qui sont dedans, et également tout ce qui est logistique au niveau, je pense à la route de la soie qui va venir jusqu'au Luxembourg, aux nos voisins, c'est pas pris en considération, donc il faut peut-être regarder ça d'une façon globale, et développer peut-être des consommations locales le plus possible. Donc ce n'est pas aujourd'hui la fermeture des frontières, mais bon, il faut être beaucoup plus vertueux aujourd'hui et revoir une conception mondiale de la consommation. Alors même chose au niveau d'éthique, au 19e siècle, l'Europe, les États-Unis ont largement profité de cette croissance. Maintenant, il y a les pays émergents. Il y a encore la Chine, on le voit, les pays africains et autres. Est-ce qu'ils vont se priver aujourd'hui des gisements colossaux qu'ils ont ? Gisements, on a vu, hydrocarbures, qui devaient être limités dans le temps, et à chaque fois, on découvre des gisements aujourd'hui, donc ce n'est pas terminé. Alors, est-ce qu'ils vont se priver aujourd'hui de leurs ressources minérales, du pétrole, pour un sacrifice mondial au nom de l'éthique ? Voilà, c'est mes questions. Pour être court.
Mais la réponse est relativement simple. Est-ce que nous, qui sommes, dirons-nous, avancés, est-ce qu'on est prêt à s'imposer une taxe carbone qui nous permette de créer cette masse critique, donc de 20-25% que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que tous ces pays-là qui vont émerger vont devoir bâtir des produits qui respectent cette taxe carbone, sinon ils ne seront pas compétitifs. Ça, ce n'est pas amener ces pays-là à se priver. J'ai commencé ma carrière, pour tout vous dire, en Irak, au Kurdistan irakien. Et à l'époque, on était en 2007-2008, le Kurdistan irakien était dans une démarche où il y avait déjà une conscience écologique, croyez-le ou pas. Et j'avais travaillé sur un projet notamment d'éclairage public. Et la question qui nous demandait, nous occidentaux qui venions comme consultants, c'était, est-ce que vous pourriez nous aider à faire le saut de grenouille, le leapfrogging ? C'est-à-dire, au lieu de passer par chaque étape industrielle, parce que c'est pas trop cher, alors on va faire des lampadaires de première génération, puis de deuxième génération, puis de troisième génération, puis on va progresser comme ça petit à petit, parce que c'est pas trop cher, est-ce qu'on peut pas passer directement de la première qu'on a déjà et qui est pourrie à la quatrième génération, OLED ? Est-ce que c'est possible ? Ça, c'était 2008. C'était avant le GIEC, c'était avant Copenhague, c'était avant, pas avant le GIEC, pardon, c'était avant la COP21, c'était avant Copenhague. Et tout ça, cette dimension-là, je la trouvais, je n'avais pas l'impression que je pensais que j'allais la trouver en arrivant en Irak. Et pourtant, elle était là. Alors, pourquoi on ne pourrait pas la trouver ailleurs, aujourd'hui, 10 ans après ? Moi, je pense qu'on peut la trouver.
Tout ça, c'est une question de volonté politique, au fond. C'est les signaux qu'on envoie par nos politiques aux autres pays, en tant que pays avec la plus grande responsabilité historique. L'idée de continuer à subsidier massivement les énergies fossiles, aujourd'hui ça se mesure en trillions chaque année, couper ces subsides et les mettre à la place dans la transition énergétique, cela montrerait justement, c'est déjà le cas aujourd'hui, les renouvelables sont rentables, c'est des opportunités de marché, et rediriger ces subsides massifs dans d'autres formes d'énergie, pour montrer qu'on peut adopter à grande échelle ces formes différentes d'énergie, à mon avis, peut montrer l'exemple, mais c'est toujours une question de volonté politique, et la volonté politique n'est pas une entité métaphysique indépendante des citoyens, c'est nous qui mettons la pression sur nos décideurs, c'est nous, en tant que citoyens de démocratie, qui décidons qui nous élisons. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu le grand homme, comme dirait Hegel, qui peut faire tourner l'histoire pour aller dans la bonne direction, mais en tant que citoyen, on peut essayer de faire venir des petits hommes qui peuvent peut-être... mis ensemble, faire tourner l'histoire dans la bonne direction.
Alors juste un point au Luxembourg, au niveau de la grande région, ils sont tous d'accord. Les Belges, les Suisses, les Allemands, luxembourgeois, contre le nucléaire. Alors est-ce que vous êtes pour le nucléaire ou contre le nucléaire ? Qu'on ait au moins un message très clair là-dessus, c'est vertueux ou pas le nucléaire ?
C'est une question assez massive.
De toute façon, vous allez y venir à la transition écologique. Pourquoi ? Parce que vous allez être un des points finaux de Belt and Road, donc du projet chinois des routes de la soie. Et dans le cadre de Belt and Road, ce que font nos amis chinois, amis concurrents bien sûr, c'est qu'ils apportent aussi leur version de ces énergies renouvelables-là. Et aujourd'hui, si on se focalise sur, alors j'en ai parlé un petit peu mal tout à l'heure, des véhicules électriques, etc., les Chinois sont largement en avance par rapport à nous sur les véhicules électriques, par exemple. Ils sont largement en avance par rapport à nous sur la base de technologies initialement françaises, norvégiennes, japonaises ou islandaises sur les questions d'hydrogène. Et petit à petit, avec Belt and Road, et c'est pour ça quand vous lisez notamment les livres que publie assez régulièrement maintenant le président Xi Jinping, il y a toujours cette dimension, Belt and Road, les routes de la soie, c'est une dimension civilisationnelle. Le projet GEI que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un projet civilisationnel. Parce que ce sont des projets à 360 degrés où à chaque fois cette dimension énergétique-là finalement est au cœur. Et leur logique, c'est de dire, c'est comme ça qu'on va gagner des marchés, prendre des positions stratégiques et petit à petit essaimer un peu partout. Donc cette dimension stratégique-là, c'est dommage qu'on ait Donald Trump aux États-Unis, mais peut-être que si demain matin vous avez un président démocrate à partir de janvier 2021, peut-être qu'eux aussi vont revenir dans cette stratégie d'essaimage stratégique à partir des énergies renouvelables que Barack Obama avait laissé esquisser en 2014-2015 avant de partir.
Je peux ajouter quelque chose sur le nucléaire ? Je pense que c'est surtout une question d'arbitrage, le nucléaire. Aujourd'hui, on veut continuer à consommer à grande échelle. Pour l'instant, une des seules choses, la chose dont on a vraiment besoin, c'est des centrales électriques qui soient pilotables, qui soient. Maintenant, la question, c'est l'urgence. Elle est climatique. On peut reprocher au nucléaire beaucoup de choses, mais pas la question du CO2. Pour moi, c'est très clair. Le CO2, c'est à très long terme. Par exemple, la biodiversité, c'est à très long terme. Le nucléaire a très peu d'impact sur la biodiversité. Maintenant, on peut lui reprocher ses coûts, on peut lui reprocher... On peut lui reprocher ses coûts, on peut lui reprocher aussi le fait qu'on doit stocker des déchets sur plusieurs centaines, voire des milliers d'années. Le CO2, c'est plus que des milliers d'années. La perte de biodiversité, c'est pour toujours. Une fois qu'on perd une espèce, on la perd pour toujours. Il y a plein d'autres sources d'énergie qui ont des impacts très clairs. La biomasse, par exemple, sur la perte de biodiversité, où il va falloir raser des forêts pour pouvoir mettre ce qu'on appelle energy crops, qui vont créer une perte d'habitat pour beaucoup d'espèces qui vont être perdues pour toujours. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'entre choisir entre ça et peut-être sacrifier 1 km² à Bure dans la Meuse pour y stocker des déchets et que personne n'y touche, il y a un choix qui peut être assez simple en termes pragmatiques. Après, il y a énormément de choix politiques, il y a des questions de savoir-faire, de construction qu'on a peut-être perdu en France, etc. Mais je pense qu'il faut juste être pragmatique, mettre sur la table et savoir ce qu'on veut.
Mais la question, elle est débile. Pardonnez-moi, mais la question, elle est débile, elle est profondément débile. Si vous me demandez est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire, c'est comme si vous me demandiez est-ce que vous êtes pour ou contre les vêtements. C'est-à-dire, c'est quoi comme nucléaire dont on se parle ? Est-ce que je suis pour l'EPR ? Est-ce que je suis pour l'EPR, donc troisième génération ? Non. Est-ce que je suis pour du nucléaire à la russe ? Non. Est-ce que, par exemple, je suis pour du nucléaire à sel fondu ? Oui. Donc il faut aller à Grenoble, au CEA, il faut aller voir un petit peu ce qui se fait, il faut aller voir le programme Astrid que la France a décidé d'arrêter de financer, voir tout ce qui est possible, il faut aller voir chez, comment s'appelle-t-il, chez Norton Groupman, aux États-Unis, il y a beaucoup de développement autour de ça. Bien sûr, chez Capco, absolument. Donc ce nucléaire-là, il m'intéresse. Mais le nucléaire classique qu'on a connu depuis 60 ans, il ne m'intéresse pas. Donc si on pouvait arrêter de poser la question, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le nucléaire, et commencer à rentrer un peu dans le détail de savoir quel nucléaire on veut, pardonnez-moi, j'étais provocateur à dessein, ce serait mieux, parce que là, on avancerait le débat.